Bienvenue dans un nouvel épisode de Cult, le podcast qui explore le monde fascinant de la culture, du cinéma et des livres. Que vous soyez cinéphile, passionné de livres ou à la recherche de recommandations, Cult a quelque chose pour vous. Toutes les œuvres dont on parlera sont dans la description de l'épisode, ainsi que les liens pour nous suivre sur les réseaux ou pour nous contacter. Bonne écoute! On est de retour avec un nouvel épisode de Cult Podcast et aujourd'hui on va se concentrer sur un thème qui est d'actualité, la haine. C'est peut-être pas le thème le plus joyeux qu'on ait eu l'occasion ou la chance de discuter, mais c'est d'actualité étant donné ce qui se passe notamment en France avec des émeutes, avec des tensions entre la police et la société civile, ou les cités aussi. Et j'ai l'occasion à nouveau d'accueillir Tib. Comment ça va Tib ?
Salut Max, ça va très bien et toi ?
Ça va bien. On a un beau programme aujourd'hui avec notamment une œuvre homonyme de notre thème du jour, « La haine ». Un film sorti en 1995, réalisé par Mathieu Kassovitz. Un de ses premiers films, si je me souviens, je pense avoir lu que c'était peut-être le premier. Je n'ai pas les bonnes notes sur la main. Le film est sorti en 1995, donc, et c'est un long métrage qui a marqué les esprits par sa représentation plutôt réaliste, même si, du point de vue réaliste, on peut quand même discuter. J'ai lu certains commentaires qui disaient que c'était trop tiède, d'autres qui trouvaient que l'effet était exagéré. Mais aussi une réalisation plutôt poignante de ce qui se passait et se passe encore en banlieue. Ici, c'est en banlieue parisienne, avec les problèmes sociaux et des populations qui se sentent souvent abandonnées par les politiques. Et donc, dans ce film, Mathieu Kassovitz va nous faire vivre une journée complète, une journée plus ou moins type, vécue par les jeunes de banlieue, qui sont entre ennui et frustration, avec notamment des innombrables contrôles de police, parfois justifiés, parfois injustifiés, beaucoup de contrôle au faciès aussi. Et le film est divisé en plusieurs parties, donc à chaque fois, on nous montre l'heure qu'il est à l'écran et puis on nous présente le passage qui correspond. Ce film a été donc en fait réalisé dans un contexte assez tendu. Il y avait eu pas mal d'émeutes qui avaient secoué le pays à l'époque, dans les années 90. Et de ce que j'ai lu, Mathieu Kassovitz a été assez influencé par ces événements. Et il a cherché à représenter de manière réaliste les problèmes et les injustices que les habitants rencontraient au jour le jour. Les thèmes, de manière générale, on trouve ici une réalité avec un mélange de violence, de racisme, d'injustice et des milieux qui sont marginalisés. On a un trio dans ce film, en fait un trio assez original. On retrouve Vincent, qu'on connaît sous le nom de Vince, Vincent Cassel, Saïd et Hubert. Ils ont des relations assez complexes. Et ils sont confrontés à des défis au jour le jour dans un environnement qui est plutôt, qu'on pourrait dire, tendu et hostile. Au niveau de la relation de ce trio, on retrouve aussi une certaine tension entre Vince, qui est un jeune juif, et Hubert, qui est un noir catholique. Avec Saïd, le jeune musulman, qui essaie un petit peu de désamorcer ces situations. On a d'un côté Vince qui a vraiment la rage, la haine. C'est d'ailleurs Vincent Cassel qui est un petit peu qui porte le film et qui porte cette haine à travers le film, tandis que Saïd essaye d'accepter la situation. Peut-être qu'il se dit que c'est la seule réalité à laquelle il pourra vivre et survivre. Et le troisième, Hubert, lui, il rêve d'ailleurs. Il se rend compte que cette cité, qu'aucune cité n'a de barreaux. Donc si on peut citer par exemple le rappeur Booba, c'est une ligne assez connue. Et il se rend compte qu'il est possible de sortir de cette cité malgré un désenchantement et une misère très palpable. Il se rend compte qu'il est possible, s'il s'en donne les moyens, il est possible qu'il sorte de cette misère et de ce cycle de violence. Donc on a trois approches d'un même problème, avec aussi de temps à autre une sorte de recherche du respect de la police et aussi recherche du respect au sein de la banlieue. Donc on trouve par exemple Vince qui a faim d'un petit peu de gloire, mais de gloire au niveau très local, faim de respect. Il retrouve notamment un revolver qui lui donne tout d'un coup plus d'assurance et qui lui permet, qui lui donne certaines idées, des idées de vengeance pour voir un petit peu grimper la hiérarchie au niveau de la banlieue. Et donc, c'est un film qui est tourné en noir et blanc. Ça donne déjà un aspect plutôt spécial et original au film. Avec, comme point fort, j'ai trouvé une mise en scène plutôt bien réalisée, le trio d'acteurs, et aussi le fait que ça a été tourné en noir et blanc, ça nous donne une certaine distance, peut-être une froideur, et ça donne un peu l'impression de voir des événements se passer à la télé. Donc on a l'impression de regarder vraiment des passages de violence ou qui auraient été tournés, mixés, puis représentés à la télévision. Il y a eu quelques phrases clés dans le film. On commence et on termine par une phrase clé qui est celle de l'homme qui tombe du 10e étage et qui se dit à chaque moment que jusqu'ici tout va bien parce que ce n'est pas la chute qui tombe, mais c'est l'atterrissage. Donc on parle d'une société aussi qui va encore bien tant que l'atterrissage n'est pas parvenu, mais que se passera-t-il quand on touchera le sol au moment de l'impact. C'est un film qui m'a plutôt agréablement surpris. Il y a peut-être certaines facilités, par exemple un trio avec une personne de chaque religion, de chaque couleur de peau. C'est peut-être un petit peu facile de mélanger ces éléments-là pour en faire un film. Il y a peut-être quelques fausses notes au niveau de l'heure dont on nous présente les événements, avec une sorte d'effet de téléportation d'un côté à l'autre de Paris en 1h30, avec un long passage au commissariat, etc. Donc, niveau temporel, il y a peut-être, et métaphysique, il y a peut-être quelques approximations, mais ça reste aussi un bel effort de Mathieu Kassovitz, quand on sait, je pense qu'il avait plus ou moins 27-28 ans, et que c'est un film qui a laissé pas mal de marques et qui a fait beaucoup parler de lui. Donc, ça, j'ai quand même été agréablement surpris. Et toi, tu t'en souviens un petit peu?
Ouais, j'ai vu il y a assez longtemps, hein, pour être très honnête. Mais moi, ça m'avait pas laissé un grand souvenir. Parce que je regrettais beaucoup, c'est le manque de nuances en fait dans ce film finalement. Parce que ce qui est un peu dommage, c'est que justement, on voit qu'un côté de la barrière. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut justifier des violences policières, mais pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Et ça, c'est toute une partie qui est complètement passée sous silence. Et alors, moi, j'ai pas pu m'empêcher aussi de penser que c'était un brin caricatural quand même. Moi, j'avais quand même l'impression, surtout dans le parler de ces trois personnes, qu'il fallait absolument mettre tous les clichés, tout le verlan possible, tout. J'avais un peu de mal à y croire, en fait, de ce fait-là. Donc, moi, j'étais pas. Je trouve ça dommage en plus parce que autant, enfin, je connais pas trop, je pense, les autres films réalisés par Mathieu Kassovitz, mais je trouve qu'en tant qu'acteur, il a justement, c'est quelqu'un de nuancé en fait, beaucoup plus, qui a une palette de jeux, je pense, plus large que ce que son film ne laisse paraître. Je sais pas si on pense à même à où il joue des rôles ambigus comme dans Le Bureau des légendes, ou beaucoup plus, il y a beaucoup plus longtemps, même dans Le Fabuleux Destin à Mille Poulains, où là il joue un rôle tout en délicatesse. Voilà, ça c'est, voilà, je sais pas. Vraiment été convaincu.
Oui, et tu me disais d'ailleurs, on en parlait offline, qu'une pièce de théâtre est sur le point d'être
Ouais, une comédie
mise en
musicale,
scène, une
plus
comédie musicale.
exactement. Et c'est
D'accord.
donc effectivement Mathieu Kassovitz qui va faire ça. Donc c'est en fait, il y a quelques jours dans la presse, on parle de début de tournée pour fin de l'année 2024. Donc il y a encore le temps avant d'y arriver. Et alors, ce que j'avais cru comprendre, c'était que bon, comédie musicale, on pense tout de suite à la musique qu'on entend. Elle serait pas trop justement du rap français. Voilà, à voir un peu ce qu'il en est. Mais de fait, on fait bien de parler de la haine puisque ben, c'est doublement d'actualité par ce qui se passe effectivement en France, mais aussi par cette comédie musicale qui devrait arriver d'ici un peu plus d'un an maintenant.
D'accord. Et bah, ça arrive presque pile poil au 30e anniversaire du film. Du coup, si on s'approche de fin 2024 ou début 2025, ce sera le bon moment pour fêter ça. Et puis, alors, pour faire une transition, je sais que tu as préparé l'œuvre Sœur d'Abel Quentin, ici.
Oui, c'est un premier roman même, donc sorti en
D'accord.
2019, donc c'est assez récent. Et alors, c'est connu aussi parce que ça a eu le prix Première, donc ici en Belgique, prix Première, donc Radio la RTBF, hein, ça a eu le prix donc en 2020. Et Abel Quentin aussi, mais depuis lors en fait, il a écrit un deuxième roman hein, qui s'appelle Le Voyant d'Étampes. Donc Étampes, c'est une ville. Ça a été publié en 2021, et donc là, il s'est retrouvé dans la liste de plusieurs prix littéraires. Et il a finalement obtenu le prix de Flore. Mais il était aussi dans la liste du Goncourt, si je me souviens bien. Et là, ben, il s'est fait beaucoup plus remarquer avec ce deuxième livre. Donc maintenant, c'est un nom qui commence à être connu en France, même s'il est encore publié chez un petit éditeur, c'est les éditions de l'Observatoire. Et donc pour Sœur, hein, donc premier roman sorti en 2019. Oui, pour l'anecdote aussi, Abel Quentin, en fait, donc, il est écrivain bien sûr, mais il est avocat de formation. Alors Sœur, ce que ça raconte, eh bien, en fait, c'est vraiment ancré dans la réalité. Donc là, on ne sait pas sans lien avec la haine dont on vient de parler. On a en fait une adolescente. Jenny qui est très refermée sur elle-même, qui, comme certains ados en fait, se déteste, hein, ne s'aime pas, n'aime pas ses parents non plus. Elle se sent en fait un peu piégée, enfermée dans sa vie. Alors, on est dans une ville, je pense, un peu fictive, mais donc on voit bien qu'on est plus ou moins en banlieue parisienne, dans la région Île-de-France, on va dire. Comme ça, beaucoup de violence en elle. et elle va finalement réussir un peu à incarner cette violence en s'acoquinant avec une jeune fille comme elle qui s'appelle Dounia et qui, elle, est, on va dire, terroriste en devenir. Donc, c'est-à-dire que le but, là, c'est vraiment de... C'est une islamiste, en fait, hein, cette amie, on va dire, enfin, je ne sais pas si on peut le dire amie, mais en tout cas, Jenny a tellement de violence en elle qu'elle va se faire finalement un peu manipuler par cette Dounia et en venir peut-être à commettre certains actes violents, voire irréparables. Alors, moi, je trouvais, pour un premier roman, c'est assez fort, hein, évidemment, comme thème, donc c'est très ancré dans la réalité, mais très abouti, en fait, déjà. Ça, c'est, je trouve qu'à parvenir quand même à manier ce sujet sans tomber dans dans certaines facilités, c'était déjà assez réussi. Mais ce que je trouvais surtout très, très intéressant, c'était de voir comment, en fait, cette jeune fille se radicalise. En fait, elle est déjà radicalisée, on peut dire, en elle-même, mais l'islamisation ne vient qu'après, en fait, dans un deuxième temps. On dit parfois, c'est pas le problème de l'islamisme, c'est pas la radicalisation de l'islam, c'est plutôt une islamisation de la radicalité. Et on est plutôt dans ce genre de schéma-là ici. Et ça, c'est ça que c'était intéressant. Et je pense que ça peut-être illustre aussi certains, je ne peux pas faire de généralité, mais en tout cas certains jeunes, en fait, qui ont un certain mal-être, voilà, qu'on peut retrouver. Et finalement, l'islam vient juste se greffer à cela et peut conduire à certaines violences, mais la religion n'est pas l'origine, en fait. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais je trouve que c'est un point de vue aussi intéressant et qui est attesté aussi dans la réalité. Hein, les sociologues peuvent en témoigner. Et donc, en ça, c'était vraiment très intéressant, je trouve, très ancré dans la réalité, sujet assez difficile. Ben, un bon départ pour Abel Quentin, donc, il ne peut pas en parler ici, mais il a confirmé, en tout cas, de mon point de vue, avec son deuxième roman, avec de nouveau là des thèmes ancrés dans la réalité, parce que là, on est plutôt dans la cancel culture. On verra après ce qu'il fera, mais visiblement, c'est quelqu'un qui aime avoir des intrigues bien ancrées dans l'actualité.
D'accord. Et c'est un écrivain français, belge ?
Oui, c'est un français.
D'accord. Tu l'as découvert
J'ai découvert avec le prix, en fait. Ben, on ne va pas cacher à nos auditeurs que j'ai été juré du prix en 2019, donc l'année juste avant Abel Quentin. Et donc, depuis lors, en fait, je me suis fait... je me sens obligé presque de lire au moins le gagnant de chaque année. Et là, je trouvais que c'était vraiment une très grande réussite.
Ok. J'en prends note. J'essaierai de le découvrir aussi. Donc, tu me disais, il a un deuxième roman. Est-ce que... Il a encore écrit par la suite. Donc, tu as eu l'occasion de lire le deuxième aussi.
Mais en fait, il est sorti en septembre 2021, donc c'est-à-dire exactement 2 ans après le premier. Donc, s'il maintenait le rythme, le prochain sortirait seulement ici en septembre.
D'accord.
Donc, voilà, c'est normal qu'on n'en ait pas encore de suivant. Et après, à voir, parce que je pense qu'ici, il a quand même fait beaucoup de presse, parce qu'il a été interrogé à beaucoup d'endroits. Donc, il a peut-être aussi un peu moins de temps pour se consacrer à l'écriture. Donc, je n'attends pas spécialement, en tout cas, quelque chose pour la rentrée littéraire, mais qui aura lieu finalement dans pas si longtemps que ça.
Ok, je prends bonne note. Et puis alors, est-ce que, si je te parle de l'expérience de Stanford, est-ce que ça te parle ?
Absolument pas.
Alors, en fait, j'ai eu l'occasion de lire aussi, je connaissais l'expérience de Stanford, qu'on connaît aussi sous le nom de l'expérience de la prison. J'ai eu l'occasion de lire l'effet Lucifer, où l'auteur essaie de comprendre comment de bonnes âmes tournent mal, si on peut dire. Cette expérience, elle a été menée par Philippe Zimbardo en 1971. Il était, je pense qu'il est encore prof à Stanford, et c'était une étude de psychologie sociale sur les effets de la situation carcérale. Pour mener à bien cette étude, son projet de recherche, il a fait appel à des étudiants. Il les a divisés en deux groupes. Un groupe jouait le rôle de gardien et l'autre le rôle de prisonnier. Il voulait examiner un petit peu le comportement de ces individus dans un tel contexte. Et les résultats ont montré que dans cette situation, il y a une sorte de personnalité autoritaire qui allait directement influencer les comportements de ces participants. Parfois même en contradiction avec les valeurs préalables qu'ils avaient démontrées. Donc, Philippe Zimbardo, il avait fait Avant cela, il avait fait passer un questionnaire, il avait interviewé tous ses participants. Il voulait trouver, entre guillemets, de bons candidats, plutôt paisibles, calmes, gentils, avec une certaine empathie. Et ce qui est advenu assez rapidement, c'est que les prisonniers, même s'ils n'avaient pas reçu de consignes très détaillées, sont vite tombés dans une sorte de rôle de soumission vis-à-vis de l'autorité, avec notamment très peu de rébellions. Donc, je pense qu'il y avait plus ou moins une dizaine de prisonniers, même une dizaine de gardiens aussi. Très peu de rébellions. Et de l'autre côté, les gardiens sont rapidement tombés dans une sorte de spirale de violence plutôt verbale, parce que la violence physique était plutôt proscrite, mais avec pas mal de jeux un petit peu mesquins, toujours une recherche d'humiliation constante. Et c'était vraiment passé au-delà de ce qui avait été demandé par Philippe Zimbardo, donc l'auteur de la recherche. L'étude a fait grand bruit, peut-être plus de bruit qu'elle ne le mériterait, parce qu'il y a quand même eu pas mal de défauts dans cette étude. Elle a été interrompue après 6 jours. Donc, il avait été prévu que ça dure 2 semaines, mais il est rapidement apparu que les prisonniers étaient tellement rentrés dans le rôle de prisonnier qu'ils en souffraient de manière psychologique. Donc, ça, c'était devenu assez compliqué pour eux. Et il y a eu aussi une crainte, je pense, du côté des instances universitaires ou du chercheur, de trauma qui aurait pu impacter ces étudiants. Zimbardo, ici, il veut soutenir que c'est en fait l'organisation, ou que c'est peut-être le système qui va influencer les participants. Donc la haine est créée de manière plutôt systémique et ne naît pas simplement dans le cœur de l'individu. C'est le système qui va créer cette haine, qui va créer ces violences. Mais je dois dire que de manière générale, le livre m'a un petit peu déçu, parce que le livre va passer en plus ou moins 200 pages sur cette expérience de la prison, avec un détail qui n'est pas toujours très pertinent. Donc, ça a été filmé. Donc, le problème, c'est que le chercheur manquait de moyens. Donc, il ne pouvait pas filmer toutes les scènes, toutes les interactions. Donc, il y a déjà eu une certaine filtration des moments clés. Donc, il a décidé lui-même quels étaient les moments clés à filmer, à retranscrire. Tout ce qui a été retranscrit dans le livre, les dialogues ne sont pas toujours très pertinents pour comprendre comment la haine, d'où la haine provient, quelles sont les sources, les conséquences de cette haine. C'est pas toujours très pertinent à ce niveau-là. Et puis alors, il y a un passage sur l'affaire, je crois que c'était en Irak, dans la prison d'Abu Ghraib, où il y a eu des scènes similaires, mais cette fois-ci dans le réel. Des locaux qui avaient été faits prisonniers par les forces américaines ont été humiliés de manière psychologique, de manière sexuelle. Ils ont été battus. Les soldats avaient pris des photos, posaient fièrement à côté de ces prisonniers, comme si c'était des trophées. Donc Zimbardo essaye de discuter le sujet, de nous dire que c'est le système qui cause ça, que ce n'est pas simplement, comme on a voulu nous faire croire, une caisse de pommes pourries, que c'est plutôt vraiment le système qui, n'ayant pas de contrôle mis en place, mène les individus à ignorer, par exemple, toute empathie, ne les incite pas, par exemple, à arrêter ou stopper un collègue qui serait en train de commettre des atrocités. Le livre en soi m'a plutôt déçu, étant donné qu'on passe une grande partie sur la prison de Stanford, une partie sur le côté réel de ce qui s'est passé à Abu Ghraib. J'étais plutôt déçu, je pensais, j'aurais espéré de pouvoir lire, de comprendre les prémices, les débuts, les origines de la haine, comment elle se construit. Ici, après une dizaine de pages, on avait déjà sûrement bien résumé le livre et on a simplement passé pas mal de chapitres à un peu comprendre ce qui se passait au niveau de la prison de Stanford dans cette étude.
Oui, donc en fait, c'est la retranscription finalement de l'expérience, de ce qui s'est passé. Ça, oui. Et l'expérience qui n'a été faite qu'une seule fois, alors si je comprends bien, à part l'observation qui a été faite à Abu Ghraib.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est peut-être là en fait que c'est très intéressant, hein, certainement, mais que pour pouvoir sans doute confirmer cela, je pense que scientifiquement, il faudrait que ce soit reproduit.
Oui, et en fait, le problème, c'est que lui-même, le chercheur, s'était inclus dans cette histoire, étant donné qu'il était plutôt genre une sorte de directeur de prison. Mm-hmm. C'est lui qui prenait des décisions. Parfois, il s'est laissé aussi un petit peu emballer par... Il a été pris par la situation. Il a décidé de laisser faire, de ne pas montrer d'autorité au bon moment. Donc, il a en fait, en tant que directeur de prison, il pourrait mettre un stop aux atrocités qui sont en train de se passer, étant donné qu'il est en fait chef d'équipe des gardiens. là, il a décidé de laisser cours à la situation.
Oui, ou même encourager
sans
de manière
intervenir
inconsciente,
ou l'encourager.
J'imagine qu'il était, enfin, il espérait voir quelque chose. Donc peut-être que aussi sans le vouloir, ben, il amenait à certains comportements.
Oui, c'était aussi lui qui décidait quand on allait filmer ou pas. Et bon, il est possible, je ne me souviens plus du détail, mais il est possible que certains gardiens étaient au courant de ça, quand est-ce que la caméra tournait ou pas. Et ça peut changer peut-être aussi les approches et l'idée aussi de vouloir avoir un trophée médiatique, une photo ou être filmé par la caméra, un petit peu comme ce qui s'est passé à Abu Ghraib. Donc ça, c'est pour l'effet Lucifer. Ça, donc, l'expérience a eu lieu dans les années 70 et le livre est sorti en 2007. J'ai quand même été plutôt déçu par cette lecture et j'ai vu pas mal de commentaires qui allaient dans ce sens-là aussi. Alors, on peut peut-être faire une transition sur le talentueux Monsieur Ripley, qui est un film d'Anthony Minghella, sorti en 1999. Avec au casting, on a Jude Law, Matt Damon, Gwyneth Paltrow et Cate Blanchett, qui malheureusement a un rôle assez petit. Donc, après avoir vu Tar et d'autres films récemment, j'aurais voulu peut-être l'avoir dans un rôle un peu plus important.
Oui,
est-ce que tu t'en souviens?
Oui, mais bon, c'était le début de sa carrière aussi, donc on ne voit pas non plus...
C'est vrai.
Et ben, justement, elle a un rôle un peu fantasque, hein, donc finalement assez éloigné de ce dans quoi on a peut-être eu l'habitude de la voir après, avec des rôles de femme très particulières, en tout cas. C'est plutôt ce genre de rôle qu'elle semble affectionner, en tout cas. Là, disons que c'est quelqu'un au tempérament un peu plus léger, quoi. Mais oui, donc, en fait, c'est l'adaptation d'un livre, j'ai appris en préparant ceci, je ne savais pas, mais donc de Patricia Highsmith. Et il y avait déjà eu, en fait, une adaptation... en France avec Alain Delon, donc c'était sorti en 1960, donc voilà, que ça s'appelait Plein Soleil. Mais Anthony Minghella, ouais, juste un mot sur Anthony Minghella, parce qu'en fait c'est un réalisateur qui est mort il y a déjà maintenant pas mal de temps, mais qui est décédé, je pense, je sais plus si c'est un caillot, quelque chose comme ça, mais de manière tout à fait voilà, impromptue. En fait, il était connu quand même pour avoir des films, enfin, celui dont on va parler ici assez remarqué par la critique, mais en tout cas, qui c'était des films plus, je veux dire, à Oscar, si on pense au Patient anglais qu'il avait fait quelques années avant, ou Retour à Cold Mountain quelques années après, donc c'était en 2003. C'est des films où, disons, avec beaucoup d'ampleur, avec un casting souvent intéressant, parce qu'il y a quelques stars, mais disons, des acteurs en tout cas qui, voilà, qui a priori, dont on attend beaucoup. Mais donc il a disparu en 2008, voilà, donc ça fait maintenant quand même pas mal de temps. Et or, pour la petite anecdote aussi, il a un fils qui est acteur et qu'on retrouve en fait dans La Servante écarlate. Je ne sais pas si tu vois, si tu as déjà vu la série. Et ben donc Max Minghella, c'est en fait c'est celui en fait qui est le gardien, enfin, je ne sais plus trop comment on l'appelle, de la famille dans laquelle le personnage principal se retrouve.
Oui, je sais pas qui s'appelle Off Joseph.
Parce ouais, mais donc
le commandeur.
C'est l'espèce de chauffeur, garde, etc.
D'accord.
Je sais plus son prénom. Enfin, bref, donc ça c'était pour l'anecdote. Et donc ici, mais qu'est-ce qu'on a en fait? Donc on est dans les années 50. Il y en a Tom Ripley, c'est comme ça qu'on prononce en anglais, qui est voilà, qui a pas trop d'argent et qui un jour en fait piano et se fait et il porte une veste de Princeton. Et donc, il se fait en fait alpaguer par un homme très riche, un magnat de la navigation, qui pense du coup qu'il a fréquenté cette université prestigieuse dans laquelle justement était son fils, Dicky. Alors que la veste, en fait, elle était tout simplement empruntée. Donc, il y a un peu une sorte de quiproquo. Mais le jeune Tom va quand même profiter de cela. Parce que cet homme riche, en fait, lui propose de partir sur les traces de son fils et avec une récompense à la clé. Et comme cet homme a assez peu d'argent, bah, il va vite se montrer intéressé. Et donc, il va partir comme ça. Donc, même si on est aux États-Unis, il va partir en fait pour l'Italie. Alors, il ne met pas très longtemps à retrouver la trace de Vicky. Et sur sa route, notamment, il croise une mondaine américaine qui est interprétée par Cate Blanchett. Et c'est là qu'il commence à se faire passer pour Dicky. Alors, Tom rencontre assez vite Dicky. Et en fait, se retrouve très vite fasciné par lui. Mais vraiment fasciné à tel point qu'il va même jusqu'à essayer ses vêtements, par exemple, en cachette. Commence à se passer une drôle de relation, parce que c'est presque un ménage à trois, puisque ce Dicky, ben, il est en couple avec, avec une jeune fille qui est interprétée par Gwyneth Paltrow, justement. Et voilà, et donc ben, finalement, en fait, je ne sais pas si je vais aller beaucoup plus loin dans le résumé, parce que je n'ai pas envie de tout révéler, mais ça va pas très très bien se passer. Plus tard dans le film, Tom va continuer à se faire passer pour Dickie. Nos auditeurs doivent se demander un peu, tiens, pourquoi est-ce qu'on parle de ce film alors que le thème, c'est la haine? Eh bien, précisément, en fait, parce que ce Tom, ben, au début, donc, il est fasciné par Dickie, puis il finit par le haïr. Mais est-ce qu'il ne se hait pas avant tout lui-même? Parce qu'en fait, on ne sait pas très très bien, on ne comprend pas très bien au début, en tout cas, ce qu'il recherche. Au niveau de sa sexualité, par exemple, est assez ambigu. Et s'il en vient à avoir tous ses comportements un peu, et ses actes un peu étranges, voire extrêmes, ben, c'est peut-être avant tout justement parce qu'il se hait lui-même et qu'il se cherche un personnage. Enfin, il se cherche un peu... voilà, enfin, en tout cas, moi, c'est mon interprétation du personnage.
Oui, et c'est un personnage qui reste assez trouble, étant donné qu'on commence l'histoire sans introduction. Il joue directement du piano. On le voit simplement nettoyer quelques vestes aux toilettes d'un restaurant chic. Il nettoie les vestes des messieurs qui se recoiffent en face du miroir. Et c'est à peu près tout. Donc, dès qu'il a la première occasion qu'il reçoit de changer d'identité, il le fait directement sans arrière-pensée. Il renie un petit peu ses origines dès le départ. Il s'invente cette nouvelle personnalité. Et puis, j'ai aussi l'impression que c'est un peu une haine de soi, étant donné qu'il il ne regrette pas, à aucun moment il ne regrette ses actes. Et il est content de pouvoir prendre la place du jeune Greenleaf, Dickie Greenleaf, à la première occasion, et de totalement renier toutes ses origines et ses goûts, en fait, parce qu'il commence à étudier les goûts de Dickie Greenleaf. Il se force à aimer la même musique. Bon, il apprécie la musique, il joue du piano, mais il va se forcer à aimer les mêmes disques, avoir les mêmes goûts, je pense, en peinture ou en art. Mmh. Le même genre de, je pense qu'ils vont sûrement au restaurant, ou le même genre de goût de luxe. Il va peut-être renier aussi certains goûts plus modestes par la même occasion. Et je pense qu'il doit y avoir un ou deux moments où sa carapace craque un petit peu, il fait paraître ses goûts plutôt modestes, et directement il se fait un peu rabrouer par Jude Law et Gwyneth Paltrow. Dans le film, on commence à se moquer un petit peu de ses goûts plus modestes. Donc je suis d'accord qu'il y a aussi une partie sur peut-être la haine de soi. Mais c'est intéressant de voir comment cet individu est poussé aussi à une moralité plutôt très flexible. Donc,
déviante, oui.
Et déviante. Et quelles sont les limites qu'on peut accepter? Il a voulu se faire aimer par ce Dickie Greenleaf, par sa copine, et au final, il entre dans une sorte de cycle de la violence sans pouvoir s'arrêter.
Et alors, ce que je trouve un mérite du film aussi, c'est qu'on ne sait pas grand-chose de lui avant, comme tu l'as dit un peu. Et du coup, on ne cherche pas à tout expliquer. Voilà, on le découvre comme ça au fur et à mesure, ses côtés sombres. Mais pourquoi est-ce qu'il en est arrivé à là? Ça reste assez mystérieux. Et on laisse un peu le spectateur finalement imaginer cela.
Ouais. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait quand même encore une forte influence. On voit que c'est du cinéma hollywoodien, cinéma américain. Ça manque, même si on était dans un pays étranger. On ressent toujours, c'est peut-être les interactions entre les acteurs. Il y a un moment où je regardais le film et je me suis dit, on voit que c'est un réalisateur plutôt d'Hollywood. C'est un film plutôt typiquement américain aussi. Peut-être Patricia Highsmith est sûrement une écrivaine américaine aussi.
Oui, tout à fait.
Ça se ressent. Difficile à expliquer.
Oui, peut-être parce que tout est propre, en fait, notamment dans la mise en scène, dans la photographie. C'est peut-être à ce niveau-là que tu...
Non ? Peut-être bien. Oui,
on n'est pas dans un petit cinéma, enfin, c'est pas du cinéma indépendant, un réalisateur du cinéma indépendant, ça c'est vrai que ça se voit.
Parce que c'est une drôle transition, mais on a tous les deux vu, par exemple, le film Les Hautes Montagnes,
oui.
La huitième montagne, bon, qui est là un film tourné en Italie, à nouveau, mais par des réalisateurs belges. Le thème est totalement différent, ça je te l'accorde, mais dans la manière de filmer ou d'écrire une histoire, je trouve qu'il y a par exemple de grosses différences. Mm-hmm. Et ça, on voit que c'est, je ne vais pas dire que c'est du film d'auteur, mais c'est un cinéma moins policé et un petit peu plus, peut-être plus brut et plus naturel aussi, d'une certaine manière.
Oui, c'est sûr.
Donc ça m'a marqué. Et puis alors, pour peut-être passer sur un autre thème, tu as passé en revue L'été où tout a fondu. Tiffany McDaniel.
Peut-être d'abord un petit mot en fait sur Tiffany McDaniel, hein, parce qu'en fait elle s'est fait remarquer pour son roman Betty, qui est paru en France en 2020, je pense, et qui s'est fait vraiment très très fort remarquer. Donc elle a bon, c'est en partie autobiographique, j'ai pas encore lu. Hein. Et voilà, donc elle a vraiment collectionné en fait toute une série de prix et ça fait remarquer par la critique. Donc c'est comme ça, hein, parfois tu as un roman qui sort, donc je pense que c'était à la rentrée littéraire ou je ne sais plus si c'était après, et tout d'un coup, tout le monde commence à en parler. Tous les critiques, en fait, s'enthousiasment pour ce livre. Et bon, c'est une traduction, bien sûr, hein, mais ça donne, c'est presque qu'elle était plus connue en France qu'à la limite qu'aux États-Unis. Et d'ailleurs, l'été où tout a fondu, en fait, est paru donc, chronologiquement en anglais avant Betty, mais a été traduit après. Parce que Betty, en fait, a eu tellement de succès, s'est fait tellement remarquer que ça a permis de traduire un de ses romans précédents. Alors, l'été où tout a fondu, en fait, donc on est en 1984, dans une ville fictive, je pense, qui s'appelle Breathed, dans l'Ohio. Et alors, donc là, le narrateur, en fait, c'est le fils d'un procureur et qui, en fait, publie comme ça une annonce dans le journal local en disant « Si le diable existe vraiment, qu'il vienne me rendre visite. » Voilà, donc c'est assez étrange comme point de départ. Et qu'est-ce qui se passe ? En fait, très vite, eh ben, il y a un petit garçon noir qui a des yeux verts voilà, qui marquent, on va dire, et qui se présente et qui dit voilà, ben, le diable, c'est moi. Parallèlement à ça, il commence à faire extrêmement chaud dans la ville. Tellement chaud qu'il ne pleut plus. Enfin, évidemment, tout le monde se rue sur des ventilateurs. La chaleur vraiment affecte tous les habitants et sans doute échauffe un peu les esprits aussi. Alors, ben, très vite, en fait, ce garçon-là, qui a sans doute quelque chose comme 11-12 ans, on va dire, à peu près du même âge que le narrateur, donc procureur, ben, il n'a pas de parents, enfin, il n'a pas l'air... donc, c'est un peu étrange, mais il n'est pas méchant, il ne fait pas grand. Il ne commet pas des méfaits, il ne vole rien, même s'il se prétend être le diable, on ne peut pas l'accuser formellement de quelque chose. Et pourtant, il va s'attirer, en fait, petit à petit, toute la haine des habitants. Parce que ben, s'il fait si chaud, c'est à cause de lui. Et le moindre petit événement tragique, parce que bon, comme dans toute ville, il y a des gens qui meurent, des gens qui ont des accidents, ou des choses comme ça, eh ben, on arrive presque toujours à rattacher la cause de l'accident, d'un événement malheureux à lui. Et alors, et parallèlement à ça, en fait, donc on est en 1984, le frère aîné du narrateur se découvre en fait un peu, enfin, homosexuel, on va dire. Et on est aussi à l'époque où le SIDA commence à faire des ravages. Et tout ça pour dire en fait que c'est ancré aussi dans un certain contexte, on va dire. Ça, c'est ce fait que ce frère aîné soit gay, en fait, est un peu caché aussi parce que de nouveau, tout début en fait du SIDA, les personnes séropositives et plus tard malades étaient vraiment vues comme des pestiférés et on s'attirait la haine aussi. Et donc c'est pour ça que ceci doit être caché. Et ce que ce livre montre aussi, c'est que dans une petite ville comme ça où tout le monde a l'air de se connaître où tout va bien, en fait, se cache derrière comme ça certaines âmes vraiment de la haine. Presque derrière tout un chacun, finalement. Voilà, personne n'est blanc, finalement, presque dire ça. Et donc, évidemment, on est aux États-Unis, donc je parlais des gays, mais aussi, évidemment, si ce n'est pas un hasard, si c'est un petit garçon noir qui est sujet de toute cette rancœur, toute cette haine, alors qu'il n'a pas fait grand-chose, si ce n'est le fait d'arriver, et peut-être de manière un peu provocante, de prétendre être le diable.
Mais donc, il arrive sans parents.
Sans parents.
Un peu le contexte, d'accord.
Alors, je vérifie, ouais, il a 13 ans qu'il a. Oui, sans parents, effectivement. Et donc, parallèlement à ça, le procureur... En fait, le procureur est un homme globalement bon. Donc, il va le recueillir chez lui et il va essayer d'enquêter, de trouver pourquoi. Il va dire que ce n'est pas possible. Et on se rend compte aussi que, parallèlement à ça, on a toutes les disparitions d'enfants noirs dans la région. Et donc, il va enquêter. Donc, on va essayer de retrouver les parents. Et à un moment, on imagine qu'on a trouvé les parents dont le garçon a disparu, mais c'est... C'est pas eux, donc on ne sait pas. Donc ça, c'est en fait, c'est assez particulier, hein, évidemment. Donc, on a presque un mélange de... Je dirais pas qu'on est dans du réalisme magique parce qu'on n'a pas de faits magiques, mais en tout cas, une atmosphère étrange, ça c'est sûr, comme point de départ, quoi, on va dire. Et donc c'est assez... en fait, c'est assez inclassable, hein, je trouve. Hein. Donc c'est assez... donc où est-ce qu'on est exactement ? S'il fallait donner un genre au roman, je pense que ce serait assez difficile. En fait, sans y toucher, ça démontre beaucoup de choses de l'Amérique des années 80, en fait, avec une histoire au début peut-être un peu fantasque, étrange. Ça dit beaucoup de choses, en fait. Et en cela, je trouve que c'est très intelligent. De nouveau, c'est assez abouti. Hein, donc voilà, je ne sais pas quel âge avait cette écrivaine au moment, donc c'était en 2016. Elle avait 31 ans, si je vois bien. Donc voilà, très, très, déjà très abouti en fait.
D'accord. Et tu l'as découverte par hasard?
Alors en fait, moi je connaissais Betty, donc je n'ai pas encore lu Betty, et donc j'ai reçu celui-ci en cadeau, voilà, en disant que c'était le premier roman de Tiffany McDaniel. Et donc, en tout cas pour les libraires ou pour des critiques, ça a un nom qui parle en tout cas en France et donc aussi en Belgique. Et voilà, ça suffit en fait à... Enfin, son nom est déjà un peu vendeur déjà. Et voilà. Et donc évidemment, moi, ça m'incite à continuer. Et donc, j'irai sans doute Betty à un moment ou l'autre.
Ok. Et du coup, ça, quand tu la présentais, ça me rappelle un peu l'histoire de Paul Auster, qui est aussi plus connu en France qu'aux États-Unis.
Ah oui, je veux pas dire, honnêtement, je ne me suis pas renseigné si elle n'était pas connue, mais en tout cas, elle n'a pas collectionné les prix aux États-Unis comme elle les a collectionnés en France. Ça oui, donc je veux dire, vraiment très très fort soutenue par des libraires et par la critique. Ouais, mais il y a des écrivains comme ça. Hein, au cinéma, Woody Allen, c'est quelqu'un qui... Enfin, personne ne regarde ses films aux États-Unis. Hein. Par contre, l'Europe l'adore, la France en particulier, mais voilà, donc ça, c'est des films qui fonctionnent toujours à l'étranger, mais jamais sur son propre territoire. Quoi.
Ouais, c'est vrai. Je pensais à un autre exemple, mais non, là. Ah oui, il y a aussi, bon, là je pense qu'il est plutôt populaire des deux côtés, mais par exemple, je sais que Houellebecq, il est très populaire en Allemagne.
Ah ouais.
J'imagine plus ou moins tout autant qu'en France, mais en Allemagne, il est vu comme un, bah, peut-être comme un penseur moderne au niveau de la France. Et je ne sais pas si tu as entendu, il a sorti un nouveau livre, plutôt un pas spécialement un roman, mais plutôt essayer un petit peu de régler ses comptes ou un petit peu s'expliquer sur la situation récente, qui lui fait perdre pas mal de crédibilité. On se demande un petit peu que se passe-t-il.
Oui, il se plaint beaucoup, tout le monde lui en veut. Enfin, en tout cas, moi, j'ai lu une ou deux critiques comme ça.
Oui, et puis, pour le contexte, pour remettre dans le contexte, il y a quelques mois, bon, c'était un petit peu dans toutes les news, il est apparu qu'il avait tourné dans un film pornographique.
Ouais.
Donc, puis évidemment, le film, il est préparé pour la sortie, pour la vente. Et quand il s'est rendu compte que le film allait être vendu ou mis à disposition du public, il s'est réveillé et il s'est dit, tu sais, moi, je ne suis pas d'accord. Il a essayé d'interdire la vente. Alors que, bon, il faut quand même rester conséquent. Donc, il était au lit avec une jeune femme, plein de caméras autour. On lui a fait signer des papiers. C'était pas uniquement pour son beau brushing ou pour son physique qu'on l'invitait. Donc, après de jouer un petit peu l'étonné par la suite, ça, je pense que ça lui a fait perdre pas mal de crédibilité en se demandant de quoi s'agit-il. Et d'essayer d'interdire le film. Je crois que ça fait un petit peu effet Barbara Streisand aussi, où maintenant tout le monde en parle et tout le monde s'intéresse à l'affaire. Et le fait en plus d'écrire un livre par la suite pour essayer de se défendre ou de régler ses comptes, je pense que ça ne va pas aider. Ouais, ça, c'est pour la page Michel Houellebecq. Alors, on peut peut-être faire une transition sur Americana. J'ai trouvé dans ma bibliothèque un livre qui s'appelle Americana également, sans le H, qui est un livre de Lilo. Donc, il faudrait que je lise aussi sur un thème, je pense, totalement différent, sur l'Amérique aussi. Dans ce livre-ci d'Americana de Chimamanda Ngozi Adichie, qui est une auteure nigériane. Ce livre est sorti je vois qu'il est sorti en 2013 et traduit en français en 2015. C'est une belle découverte, même si au final j'ai trouvé qu'il y avait peut-être certains points négatifs. Donc j'en parlerai. De manière générale, une belle découverte. Tu sais qu'elle a écrit aussi Half of a Yellow Sun et un autre livre, On devrait tous être féministes. Je sais que ce sont deux autres titres assez connus. Donc ici, l'histoire va suivre le parcours de deux personnes, Ifemelu et Obinze, deux protagonistes nigérians. Ils sont plutôt dans la classe moyenne. Donc on a déjà une immersion assez intéressante de voir une classe moyenne africaine, une classe moyenne du Nigeria. Donc on ne parle pas des extrêmes comme assez souvent. Et eux vont se retrouver confrontés à certaines opportunités, certaines limitations en fait dans leur pays d'origine et décider de s'expatrier. Donc Ifemelu va immigrer aux États-Unis et Obinze à Londres. Ils ont depuis toujours une certaine attirance, ça c'est jamais vraiment... Ça n'a jamais vraiment mené nulle part, mais ces expatriations vont les conduire dans des situations radicalement différentes avant de les ramener vers la fin au Nigeria, donc la terre natale, où ils vont discuter un peu leurs expériences. Et Ifemelu va par exemple découvrir les tensions raciales aux États-Unis. Ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'elle découvre qu'elle est noire. Quand elle arrive aux États-Unis, elle découvre qu'elle est noire. Elle vivait au Nigeria. Elle vivait simplement avec ses compatriotes. Et si elle se sent dans une classe à part, elle ressent directement une certaine distance, elle ressent certaines tensions, une hiérarchisation dans la société, dans tous les contacts, dans la manière même entre amis de discuter, le genre d'anecdotes qui sont qui font surface et ce dont on va parler. Elle est une blogueuse plutôt controversée, donc chaque chapitre, la plupart des chapitres vont être terminés par un article de blog où elle va simplement faire une comparaison avec le Nigeria et les États-Unis ou bien sur une situation en particulier. Tandis que Obinze, lui, de son côté, va travailler en Angleterre, travailler de manière illégale et il va essayer d'obtenir un droit de passage plus stable, donc via un mariage blanc. Le livre, de manière générale, il aborde pas mal de thèmes sur, au départ, la vie au Nigeria, donc la pauvreté, la corruption, les différences sociales entre le Nigeria et les cultures aux États-Unis et en Grande-Bretagne. On va aussi comprendre la différence entre les Noirs américains et les migrants africains de nos jours, donc les Noirs non américains aux États-Unis. Il y a aussi une différence et certaines tensions sur lesquelles on ne pourrait pas être très au courant. On va aussi voir l'impact de cette arrivée aux États-Unis sur l'identité noire d'Ifemelu et particulièrement quand elle prend conscience donc de sa propre différence quand elle arrive dans ce nouvel environnement. Donc je trouve qu'il y a quand même pas mal de talent point de vue d'Adichie, notamment avec j'ai bien aimé les premières pages du livre. Je dois admettre que par la suite j'avais l'impression d'être parfois un petit peu perdu avec les dizaines, presque centaines de caractères, de personnages qui étaient mentionnés. Il y avait à certains moments j'ai l'impression qu'elle essayait de nous partager des anecdotes qu'elle avait vécues elle-même en voyageant aux États-Unis, en Afrique, et d'essayer de les racoler dans l'histoire. Ça tenait pas toujours debout, je comprenais l'importance de ces anecdotes, mais pour le fil du récit, ça affaiblissait le récit par moments. Je ne voyais pas toujours le lien avec le passage précédent. On a l'impression qu'elle avait peut-être une liste d'anecdotes à placer et qu'elle les plaçait les unes après les autres avant de les raturer sur son brouillon. Mais elle parvient quand même bien à capturer les différences sociales, culturelles, les approches, le côté super positif aux États-Unis, plutôt hypocrite aussi, le côté plus terre à terre et parfois plutôt philosophe au niveau du Nigeria. Et les passages, je pense que les passages de son blog étaient plutôt donner une belle cassure au roman aussi pour terminer un chapitre, terminer une expérience. Les espoirs amenés par Obama, notamment, il a commencé à être un des candidats pour mener le parti démocrate et puis candidat à la présidentielle, par la suite gagner les élections. Ce qui m'a peut-être manqué, c'est le fait qu'il y a peut-être eu un côté désillusion qui n'est peut-être pas paru tant que ça. On espérait qu'Obama règle tous les problèmes. On espérait sûrement trop à demander pour un seul président. Mais il n'y a pas eu vraiment de commentaires par la suite sur la politique qu'Obama menait aux États-Unis. De manière générale, je pense que le livre a bénéficié donc d'une édition plus concise. Peut-être un manque d'intrigue aussi, un rythme assez lent avec pas mal de répétitions. De manière générale, j'ai apprécié de découvrir une nouvelle auteure.
Ouais, moi quand je l'ai lu, je suis un peu plus positif. Hein. Moi, j'ai lu plus ou moins sorti en français. Ça s'est fait très, très fort remarquer. Hein. Donc, aussi bien aux États-Unis que dans la francophonie, ben je pense que c'était dans les livres sélectionnés par New York Times comme l'un des 10 meilleurs livres de l'année 2013. Et donc je me rappelle hein, quand il était sorti en français, d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai lu, c'est de nouveau très fort poussé par la critique et par les libraires aussi. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé parce que moi ce qui m'avait vraiment marqué en fait, c'est ce côté découvrir qu'elle est noire et tout ça aux États-Unis, ça je peux bien le comprendre parce qu'on imagine la société avec les racismes, discrimination. Mais alors qu'au sein même des Noirs, on va dire, elle est vue par les Noirs américains comme une étrangère, quoi. En fait, elle peut pas s'approprier leur, ils le disent presque, elle peut pas s'approprier leur histoire, elle ne sait pas de quoi elle parle finalement puisque c'est eux qui subissent les discriminations, etc. Donc on va dire, déjà, les Noirs américains sont une sous-classe, on va dire, mais elle est finalement encore une sous-classe de ce point de vue-là. Donc, c'était déjà un point de vue extrêmement intéressant et étonnant, en tout cas pour nous Européens. Ce qui m'avait intéressé aussi, c'est le fait finalement qu'elle reparte comme ça au Nigeria, c'est un peu l'échec du rêve américain, une fois de plus, quoi. Puisqu'on a, donc hyper positif, tout le monde qui a... On donne sa chance à tout le monde et tout le monde peut y arriver s'il le veut bien, on va dire, hein, s'il se donne pour cela. Mais en fait, on n'y est pas du tout, quoi. Donc, et si elle ferme son blog, c'est pas parce qu'elle le veut, parce qu'elle se résout finalement à le faire, ce n'est pas spécialement de gaieté de cœur, et le retour au pays ne se fait pas non plus voilà, en se disant voilà, j'ai réussi ce que je suis arrivé, ce à quoi je voulais parvenir aux États-Unis, quoi.
De retour au pays, je pense qu'on l'a moqué un petit peu aussi.
Parce qu'en fait,
de vouloir se sentir. Oui.
Oui, Americana, en fait, c'est un peu péjoratif. Ça fait, c'est une expression en fait qui signifie, voilà, c'est des gens qui sont partis aux États-Unis, qui se sont américanisés, et voilà, donc qui ont sans doute voulu faire les beaux et qui après continuent à vouloir montrer qu'ils sont mieux, mais c'est pas très positif comme terme.
Et puis, je trouvais bien aussi parmi les anecdotes qu'elle partageait, il y a l'anecdote, et là, moi, je suis au courant depuis, c'est quelque chose que j'ai aussi découvert, le côté oppressif par rapport aux coupes de cheveux. Donc, par exemple,
Ouais.
le fait d'être forcé par son employeur ou par la société d'avoir les cheveux lisses, ne pas pouvoir les laisser au naturel. Il y a tout ce côté où on a les femmes noires américaines, peut-être même autre part, qui souvent se rasent la tête et portent des perruques pour avoir une chevelure lisse et pour pouvoir gagner du temps, simplement, parce qu'essayer de se lisser les cheveux tous les jours, ça prend aussi du temps, ça abîme les cheveux, plein d'autres choses. Donc c'est cette oppression de ne pas pouvoir vivre et être comme on le veut, parce que la société nous dicte autre chose. Le fait d'avoir aussi des collègues, des amis ou même des étrangers, être tenté ou vouloir essayer de toucher les cheveux frisés pour voir quel est l'effet, à quoi ça ressemble, comme s'il s'agissait d'une poupée ou d'un jouet, alors que c'est aussi un espace personnel qu'on souhaiterait pouvoir bénéficier. Donc ça peut ouvrir les yeux sur comme ça pas mal de petites anecdotes qui sont aussi disséminées au fil du livre. Je sais que je critiquais un petit peu cette approche, mais à chaque fois, elles ouvrent les yeux sur des problématiques, des réalités qu'on pourrait ignorer assez facilement. Donc pour ça, ça vaut quand même le coup aussi de le lire pour pouvoir se mettre en fait à la place de quelqu'un d'autre et vivre aussi ces différences.
Tout à fait.
Et puis alors, vu qu'on parlait des États-Unis, restons aux États-Unis avec le complot contre l'Amérique, qui est au départ, c'est un livre qui a été écrit par un livre, une fiction, écrit par Philip Roth. C'est sorti en 2004 et c'est un livre, c'est une dystopie, donc une utopie négative, où là, il va imaginer une Amérique, fin des années 30, début des années 40, va élire un fameux Lindbergh, que l'on connaît sûrement comme étant l'aviateur de renom de l'époque. Et donc, tout ça, on part en fait, si je me souviens bien, d'un fait historique où Lindbergh avait des sympathies nazies et Philip Roth s'est imaginé une Amérique différente où Roosevelt ne gagne pas sa réélection. Il perd contre cet aviateur qui, au départ, est plutôt neutre par rapport à l'Allemagne. Il se lance avec un programme anti-guerre. Il ne veut pas faire rentrer l'Amérique en guerre. Il veut éviter un bain de sang. Il veut éviter de voir la jeunesse partir et se faire déchiqueter sur les plaines de l'Europe. Et l'histoire commence de cette manière-là. J'ai eu l'occasion récemment de voir la mini-série qui a été créée par HBO. Le réalisateur, c'est David Simon, qu'on connaît notamment pour la série The Wire, sur écoute. Et au départ, j'ai lu qu'il avait rejeté l'idée, trouvant le scénario plutôt improbable d'une Amérique qui tombe dans le fascisme. Il a changé d'avis aux alentours des années 2016, donc avec l'élection de Trump. Il a revu son jugement. Il s'est décidé à l'époque d'adapter l'œuvre de Philip Roth. Et puis, le premier épisode est sorti en 2020, si je ne me trompe pas. Et donc, là, je vais parler peut-être de la série télévisée pour commencer. Donc, elle a été adaptée. C'est une série qui est une série dramatique. Elle a suscité pas mal d'attention et de discussion. Je me souviens en avoir discuté aussi avec des collègues. Ça a marqué pas mal de monde. Je pense que beaucoup de personnes ont découvert Philip Roth par la même occasion. Et donc, dans le contexte historique, on est dans les années 40. Charles Lindbergh, c'est un héros de l'aviation américaine. C'est un des premiers à faire des vols long courrier, des vols commerciaux, aussi à travers l'Amérique, aussi transatlantique. Il est très connu aussi pour le cas de l'enlèvement de son jeune enfant, son jeune fils, une affaire qui a un peu secoué l'Amérique aussi. C'était une célébrité, je pense, à l'époque. Si je ne me trompe pas, on n'a jamais trouvé le kidnappeur. Je ne sais pas si on a retrouvé son bébé, je ne me souviens plus trop. Et donc, Lindbergh, dans la série, c'est un homme qui, à la dernière minute, remporte la nomination du Parti républicain. Il parvient à battre Roosevelt et il devient le 33e président des États-Unis. Il a une certaine plateforme anti-guerre avec des opinions antisémites. Il va signer des accords de paix avec les puissances de l'Axe, donc avec les nazis, avec l'Italie. Et il commence à marginaliser les juifs américains. Il bénéficie aussi d'une certaine éloquence. Donc, il a un look premier de classe. Il a des discours plutôt réduits. Il aime aussi accuser directement Roosevelt et les juifs américains d'être des agitateurs de guerre. C'est un terme qui revient assez souvent, de vouloir les entraîner dans une nouvelle guerre, une guerre dont les États-Unis ne veulent pas. Et je pense que sur ce point de vue, c'est aussi une discussion qui avait lieu à l'époque. Donc, les États-Unis sont rentrés en guerre assez tard. Il y avait aussi eu pas mal de discussions sur le fait que c'est une guerre qui a lieu en Europe, qui est très loin des intérêts américains. Et il y a une grande partie de l'opinion publique de l'époque qui ne voulait pas rentrer en guerre. Je pense d'ailleurs que l'épisode de Pearl Harbor, ça avait été un déclencheur, mais que ça a peut-être été un petit peu orchestré pour forcer les États-Unis de rentrer en guerre. Je ne sais pas si tu te souviens historiquement de la même chose. Je crois qu'on aurait placé quelques porte-avions, quelques vaisseaux sans support, et ça avait été une sorte d'appât pour attirer les Japonais et les forcer à attaquer les États-Unis et du coup trouver une excuse pour rentrer en guerre. Ça, c'est peut-être pour un petit point historique, si je me souviens correctement. Et dans la série, on va suivre la famille Levin, qui est en fait la famille Philip Roth. Dans l'histoire, Philip Roth parle de l'histoire de son point de vue, le jeune garçon. Ici, on change de nom de famille, mais l'histoire reste la même. C'est une famille qui est rapidement fissurée. On va voir les parents qui sont apeurés, qui sont effrayés par la montée du fascisme et de l'antisémitisme aux États-Unis. Le jeune fils qui a 4-5 ans, qui est vraiment déboussolé, on manque de repères, et leur premier fils qui a une passion sans frontières pour Lindbergh. Il adore dessiner, il dessine Lindbergh, il dessine les avions. Il va être à contre-courant avec sa famille, donc il défend la politique de Lindbergh, étant lui-même juif, ainsi que toute sa famille. Donc on comprend directement qu'il y a une fracture dans cette famille, avec notamment aussi la tante qui habite un peu plus loin dans le quartier, qui va aussi rentrer un petit peu dans cet engrenage et défendre l'administration américaine, peut-être un peu par opportunisme. Ça lui donne une chance de monter un petit peu dans la société, de se trouver un mari qui est rabbin, de pousser des programmes du style America First, où on va défendre les intérêts américains. On va essayer de créer des programmes pour les juifs américains, au départ qui semblent plutôt viser une meilleure intégration, et des programmes qui vont essayer de les déplacer plutôt au centre de l'Amérique, au milieu de nulle part, pour s'en défaire, pour faire de la place dans les villes. Et donc, on va suivre cette série sur ces 5 ou 6 épisodes, avec ces différentes lignes de récit et une fracture qui ne cesse de s'agrandir entre ces différents personnages. Donc, je trouvais une série qui a été relativement bien faite, qui respectait l'œuvre aussi, qui évidemment à l'écran nous permettait de transmettre peut-être plus d'émotions ou d'exemples d'une montée du fascisme dans une société qui était jusque-là plutôt neutre. Toi, type, qu'est-ce que tu en as retenu ?
Oui, moi j'ai pas vu la série, hein. J'ai juste lu le roman. Moi j'avais beaucoup apprécié. En fait, il y a un côté, donc c'est une uchronie, donc c'est vraiment une réécriture du passé à travers un événement, voilà, comme ça, qui ne s'est pas produit, et donc dont on imagine toutes les conséquences. Donc même si on sait cela, ça a quelque chose d'incroyablement réel, en fait. Donc ça, c'était quand même bien vu, bien raconté. Mais par exemple, en fait, sur comment est-ce que Lindbergh, ce que je me rappelle, c'est comment est-ce que Lindbergh arrive à être le candidat du parti républicain. En fait, il y a plusieurs tours de scrutin, et en fait, il n'arrive pas à se mettre d'accord, il n'arrive pas à trouver quelqu'un. Et finalement, c'est sa candidature qui émerge. Mais donc, le souci du détail, entre guillemets, c'est voilà, il arrive là un peu par hasard, et voilà un peu ce qui va se passer. Mais alors, ce qui est dingue aussi, c'est que je pourrais presque dire que Philip Roth était visionnaire, puisque on parle de America First, et ça c'était bien, c'est plus de 10 ans avant Donald Trump, quoi. Alors quand on dit oui, tout ça ne peut pas se dérouler, la société américaine n'est pas antisémite, etc. Et puis on a quand même quelqu'un comme Donald Trump qui arrive. Donc ça, c'est quand même assez, assez interpellant, je trouve. Alors donc, comme je disais, ça mêle aussi un peu de faits avéré, puisque Lindbergh a effectivement rencontré Hitler. Donc ça, ce sont des choses qui se sont vraiment produites. Donc il y avait certaines, je dirais qu'il était d'accord avec tout, mais en tout cas, il y avait certaines sympathies, en tout cas, ou reconnaissances. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi interpellantes. Et parallèlement à ça, c'est vrai que Lindbergh était un héros américain du point de, à cette époque-là. Donc un peu comme Trump, quoi, finalement, vu comme un héros, c'est peut-être un peu exagéré dans le cas de Trump, mais en tout cas, un self-made man, quoi, quelqu'un qui a réussi, etc. Même si c'est pas, si la réalité n'est pas tout à fait vraie, en tout cas pour Trump. Voilà, c'est l'image, en tout cas, que deux véhicules. Donc il y a quelque chose, je trouve, de particulièrement interpellant quand on sait ce qui s'est produit aux États-Unis en 2016, je trouve. Ça, c'est voilà. Ça, c'est, j'ai lu, je pense que j'ai lu ça avant que Trump soit président, mais en préparant ici le podcast, ça m'a semblé encore plus dingue, en fait.
Ouais, et dans les deux cas, en fait, on parle d'une célébrité qui parvient à prendre un raccourci et obtenir le job suprême.
Mm-hmm. Exactement, exactement.
Ouais, c'est vraiment ça. Quelque chose qui est assez récent, donc on voit par exemple aussi, il y a eu comme ça quelques cas où par exemple, bon, si on parle plutôt peut-être de l'Ukraine plus localement, on parle aussi de quelqu'un qui n'a pas spécialement une expérience politique extrême, Zelensky, qui est comédien et qui parvient, qui se présente, je crois, aussi au présidentiel, je ne me souviens plus exactement, et qui, au final, devient président assez rapidement.
Oui, et surtout en ayant joué dans une série où il devenait président comme ça, quoi, presque ouais. Par hasard. Et finalement, ben c'est ce qui se produit. Oui. Donc, c'est vrai que ce qui semble tout à fait improbable et impossible, ben en fait, pas toujours, quoi. Moi, je trouve que ça me fait réfléchir aussi sur cette idée de la démocratie. On se dit, oh oui, de toute façon, la démocratie, c'est tellement ancré dans nos sociétés que pourquoi la défendre? Pourquoi doit-on s'en faire? Puisque de toute façon, on n'accepterait pas, on ne voudrait pas autre chose. Voilà, moi, je trouve que ça fait un peu réfléchir sur... la démocratie, c'est toujours quelque chose de très fragile, hein, finalement.
Qui meurt, en fait, avec un détricotement petit à petit.
Exactement.
Et qui meurt un peu dans le noir. Et d'ailleurs, j'ai lu un livre qui vaut le coup aussi, le livre « Comment les démocraties décèdent ou meurent ». Donc, c'est un livre par Steven Levitsky et Daniel Ziblatt. C'est un livre qui va vraiment nous expliquer en 8 ou 10 étapes, quelles sont les étapes à suivre pour détricoter une démocratie. Donc, on parle notamment de capturer les juges, parvenir à vraiment isoler et démoniser l'autre partie. Et c'est vraiment un guide étape par étape. Je pense, si je ne me trompe pas, on parle aussi de quelques politiciens qui sont, quelques présidents qui sont devenus, qui ont obtenu ce poste de manière un peu par surprise. Je pense que ça a été le cas. Ça devait être au Chili. Je crois qu'il y a eu un dictateur qui a été aussi Pinochet. Je crois qu'il était prof d'histoire. Et deuxième carrière, c'était président assez rapidement. La même chose avec Salazar au Portugal, qui était plutôt prof d'économie, si je ne me trompe pas. Donc aussi, pas spécialement un politique de carrière.
Oui, ben alors, plus récemment, on a encore alors l'exemple en Tunisie. Mais en tout cas, aussi quelqu'un qui n'était pas du tout du Serail, qui se présente comme quelqu'un d'absolument pour en finir avec la corruption. Moi, j'en fais pas partie, donc votez pour moi. Kais Saied, je pense, quelque chose comme ça. Et puis, on voit ce que devient la Tunisie aujourd'hui, quoi. Donc, il a suspendu le Parlement, il a les pleins pouvoirs. Et donc, en fait, on est revenu dans du Ben Ali. Pour le moment, peut-être la corruption en moins, mais bon, pas mieux, quoi.
On peut peut-être faire une transition vers la dernière œuvre que j'ai préparée. Il s'agit de Le Nain. Est-ce que tu connais Par Lagerkvist?
Pas du tout.
Alors, lui, il a obtenu le prix Nobel en 1951. Le Nain, ici, c'est un roman plutôt sombre et allégorique qui a été écrit par Lagerkvist. Il a écrit ce livre-là pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc on peut imaginer que c'était plutôt une période assez sombre, plutôt aussi idéale pour écrire ce genre d'œuvre. Et lui-même, il est connu pour une gamme d'œuvres qui est plutôt large, avec plusieurs romans, plutôt aussi un côté sur comment il s'est intéressé à la poésie, aux pièces de théâtre. Et de ce que j'ai pu lire, il a été assez influencé par Nietzsche, mais aussi par Kierkegaard. Donc c'est un mélange assez intéressant. Un autre ouvrage qui l'a fait connaître, c'est aussi Barabbas, sorti en 1950, qui a été d'ailleurs adapté au cinéma. Et c'est un roman qui va explorer la vie du personnage biblique Barabbas, qui a été libéré à la place de Jésus-Christ. Et Lagerkvist va se plonger dans les luttes intérieures et une sorte de question existentielle qu'elle est confrontée Barabbas alors qu'il se débat avec cette sorte de culpabilité et quand il est en recherche de sens. Donc, alors, pour revenir à l'œuvre Le Nain, c'est situé dans une cité italienne qu'on ne va pas nommer, dans la période de la Renaissance, et c'est une histoire qui va suivre un nain qui vit à la cour d'un prince assez puissant. S'agit-il du prince de Machiavel? Ce n'est pas dit. Et ce nain est une sorte de conseiller Donc, il a toujours l'oreille du prince, il le suit un petit peu partout. Il va raconter ce récit de son propre point de vue. Il va mettre en avant sa nature tout maléfique, haineuse. En fait, il est misanthrope. Donc, il déteste en fait tout le monde, sauf le prince. Le prince, il adore son charisme, sa force, sa beauté, son aisance, sa diction. Tout est parfait. Il a un côté très servile, une certaine servilité, mais il sent aussi une sorte de pouvoir, étant donné qu'il est le conseiller ou il fait partie du cercle assez restreint de ce prince. Donc, il va trouver un certain plaisir dans les conflits, il va comploter. Il va essayer de semer le chaos et cela va mener à une certaine tragédie dans la vie du prince par la suite et aussi tragédie dans la vie des autres personnages. Ce roman, moi, je l'ai vu comme étant une sorte de métaphore sur le côté sombre qui peut peut-être exister dans chacun de nous. Le nain ici représente les aspects les plus mesquins, les plus malveillants de la nature humaine. Ça peut être peut-être motivé par une certaine ignorance, par une haine. On est bien au-delà de la colère. On parle vraiment d'une haine de ce nain pour toute la société. Et je trouvais que l'œuvre ici va explorer certains thèmes. Donc, il y a évidemment la condition humaine, un certain peut-être désenchantement, une haine de soi. Donc, il se déteste lui-même. Il parle d'ailleurs de race en tant que nain, qui aurait été les premiers habitants de la Terre, qui viendraient d'une autre planète, si je ne me trompe pas. La métaphore est peut-être parfois un petit peu lourde, peut-être un manque d'originalité. Et bon, alors peut-être un terme aussi de nos jours, si on veut être politiquement correct, on ne parle plus vraiment de nains, mais plutôt de petites personnes. Donc, ça, c'est peut-être pour aussi corriger ça. Mais ça reste, je pense, un bel avertissement sur le pouvoir de la haine et le potentiel de destruction lorsque ce pouvoir est totalement déchaîné.
Tu connaissais l'auteur? Parce que moi, j'avoue que j'en avais jamais entendu parler jusqu'ici.
Non, je l'ai découvert aussi pour le podcast.
Et comment t'es tombé dessus alors?
Ben, j'ai fait une recherche sur le thème de la haine.
Ah ouais.
Et je suis tombé dessus par hasard. Ça, étant donné le côté misanthrope, je trouve que ça convenait un petit peu au thème de la haine de manière générale. J'ai quand même été peut-être un petit peu déçu. Je trouvais l'histoire peut-être un petit peu plutôt simple, mais la voir d'un seul point de vue et avec quelques répétitions.
En tout cas, si on en croit la page Wikipédia, parce que du coup, en t'écoutant, j'essaie quand même de me renseigner un petit peu, c'est apparemment avec ce livre-là, Le Nain, qu'il s'est fait connaître internationalement. Donc, plutôt bien choisi, je veux dire, pour en tout cas parler de cet auteur. Et puis évidemment, c'est Barabbas. Et là, par contre, ça a été salué aussi et très reconnu. Et c'est grâce à ça qu'il aurait obtenu le Nobel, si on en croit Wikipédia. Donc apparemment, s'il faut lire deux livres de cet auteur, ben, c'est les deux que tu as cités. Voilà.
Oui, j'avoue que après avoir lu Le Nain, je suis peut-être un petit peu refroidi, mais je reste quand même assez tenté par Barabbas. Moi, j'avais lu justement que c'est Le Nain qui avait convaincu le prix, par exemple, le jury du prix Nobel de lui accorder le livre. Et du coup, j'ai lu pas mal de critiques aussi de gens qui ne comprenaient pas trop, ayant lu Le Nain, n'ayant pas été très convaincus par cette œuvre. C'est une prose qui est plutôt simple, efficace, un vocabulaire qui reste châtié aussi, une histoire peut-être un peu plutôt simple aussi, avec peut-être une haine qui était peut-être un peu trop omniprésente. Donc, à chaque phrase, c'était simplement déverser sa haine sur la princesse, sur la fille de la princesse ou du couple royal, sur lui-même, sur les pauvres, sur les riches. Ça manquait un peu d'originalité dans ce thème-là. Et puis, pour terminer là-dessus, parce qu'il est difficile de parler de la haine sans parler, film American History X, qui est un film réalisé par Tony Kaye, où on retrouve Edward Norton dans le rôle principal. Donc, on est confronté à une violence, à une haine raciale dans la société américaine. L'histoire va se dérouler dans les quartiers défavorisés de Venice Beach, en Californie. Et on trouve Derek Vineyard, un jeune homme blanc qui est plutôt intelligent, mais qui a une haine sans limite pour les minorités ethniques. Il est notamment, on le voit parfois torse nu, il est tatoué de croix gammée. Il aime se lancer dans des bagarres, si je me souviens bien. Et il va aussi rejoindre un gang néo-nazi et commettre des actes assez violents. Et donc le récit va se dérouler à travers plusieurs flashbacks. On retrouve à un moment Derek incarcéré après le meurtre très brutal d'un jeune homme noir. Et en prison, il va se lier d'amitié avec un co-détenu afro-américain. Et alors, on va comprendre assez rapidement que cette expérience va lui ouvrir les yeux et va lui faire analyser sa situation. Et c'est une belle histoire de transition d'un côté de la haine vers un retour à une certaine empathie. Donc, peut-être une histoire un petit peu facile dans le fond, quand on connaît un petit peu les dialogues, mais ça reste intéressant de voir aussi une sorte de transition qui reste possible, du moins qu'on nous montre au cinéma, transition de la haine vers une certaine empathie qui est responsable pour briser un cycle destructeur de la haine et de la violence. Donc une histoire, du coup une histoire de rédemption, évidemment, et peut-être pour aussi nous convaincre que ça vaut la peine de donner une seconde chance. Bon, ça reste un moment intéressant de cinéma qui est aussi filmé en noir et blanc pour la majeure partie, si je me souviens bien. Et donc ça, il s'agissait de American History X de Tony Kaye, qui est sorti en 1998. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu l'as vu?
Et je connaissais deux. Voilà, je n'ai pas vu pas plus que ça, quoi. D'accord. Mais oui, c'est un film qui a eu du succès, qui est connu, hein, mais c'est... Moi, j'ai pas eu l'occasion jusqu'ici.
Du coup, j'ai quand même l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de violence, on retourne aux États-Unis.
C'est
de
vrai.
De haine aux États-Unis. Dans un monde qui est censé être hyper positif. Et bon, j'imagine que chaque société a ses problèmes et ses démons aussi.
Oui, c'est vrai que je sais qu'en reparcourant la liste de tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, on est quand même essentiellement aux États-Unis, alors qu'on sait pas, voilà, on n'a pas cherché un pays, une région en particulier. Tout à fait inconscient.
Le pays de tous les possibles. On peut terminer là-dessus. Je sais qu'on va faire une petite pause étant donné que l'été a commencé. À la reprise, on va sûrement tenter de parler de science-fiction. Donc ça, il faudra encore qu'on prépare. Est-ce que tu as des plans pour l'été? Des plans plutôt paisibles, loin des tensions et de la haine?
Non, mais je lis un américain, pour moi, j'ai repris un John Irving parce que ça faisait longtemps. Quoique, en fait, il ne se passe pas tant que ça aux États-Unis. On est plutôt, en fait, dans les pays scandinaves pour le moment. Ça, j'étais un peu surpris. Mais bon, ça va déjà me prendre un peu de temps parce qu'il y a 1000 pages et je l'ai commencé aujourd'hui. Sinon, pour cet été, je n'ai pas trop planifié de lecture. On va voir ce qui vient. En fait. L'an passé, c'est vrai que on avait fait l'exercice hein, de faire une petite liste qu'on allait prendre avec soi en vacances. Mais cette fois-ci, je dois dire que je n'ai pas encore fait ça. Et toi?
J'ai rien planifié, mais je pense que, étant donné qu'on a parlé d'un épisode sur la science-fiction, il y a quelques livres que je repoussais depuis pas mal de temps. L'un d'entre eux, je pense qu'on en parlera sûrement à la rentrée, je vais juste le vérifier.
Oui, c'est vrai que dans ce cadre, moi, il y a une lecture que je dois faire. Donc, oui, ça, c'est prévu, c'est vrai. Donc oui, il y aura ça.
Je pense qu'on parlera sûrement de Ishiguro, Clara et le Soleil, qui a l'air pas mal.
Moi, je n'ai pas lu celui-là d'Ishiguro. Moi... Non, moi je pensais au meilleur des mondes en tout cas, parce que moi, ça j'ai pas encore lu et ça je pense que c'est à faire.
Et du coup, moi je pense que je vais me lancer dans quelques livres de Kim Stanley Robinson qui m'a bien tenté. Donc, c'est un auteur qui essaye de faire pas mal de recherches avant de se lancer dans ses livres, de parler de technologie à la frontière du réel, donc entre faisabilité scientifique et réalité. Il y a chaque fois un côté très réaliste, même si on parle de science-fiction. Et il a écrit pas mal de trilogies aussi. Et je vais sûrement tenter Red Mars comme premier. Donc, on en discutera assez bientôt. Et je t'enverrai offline aussi quelques titres, si ça peut te tenter.
Ça marche.
Bon, alors, bonnes vacances, Steve, et à la prochaine.
Oui, bonnes vacances et bonnes vacances à nos auditeurs aussi.
Et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls. À la prochaine. Thank you.